L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Il y a quelques jours, mon collègue et ami Vladimir Cagnolari m'a mis entre les mains une grande enveloppe cartonnée. Sur la face, on pouvait lire FLEE, F-L-E-E, numéro 1, 2017. J'ouvre, à l'intérieur, un disque vinyle. Sur la couverture est dessiné un DJ à la peau noire qui est en train de déplacer une tête de lecture pour écouter un vinyle. Également dans l'enveloppe, un journal d'une vingtaine de pages, son titre « Benga Music, a signature genre from Kenya ». La musique Benga, un genre typique du Kenya. Quel est donc cet objet étrange ?
FLEE, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une bonne question, on a mis du temps à y répondre, d'ailleurs, parce que c'est vrai que bon, il y avait beaucoup d'idées, et puis il a fallu affiner, et puis arriver à ce résultat final pour ce premier numéro. Donc on a voulu penser FLEE comme, c'est vrai, une plateforme d'ingénierie culturelle, dans le sens où FLEE doit être, pour nous, une plateforme qui permet de souligner et de mettre en avant des genres musicaux qu'on estime méconnus ou pas forcément appréciés à leur juste valeur, pour de multiples raisons, qu'on essaye d'ailleurs de montrer à travers notamment ici le magazine. Et du coup, pour ce faire, donc, on a créé cette plateforme qui est FLEE, et donc avec des médiums différents, donc un vinyle et un magazine à chaque fois. Alors il n'est pas exclu qu'on utilise après d'autres formats encore, mais bon, c'est vrai qu'on en est aux prémices du projet, donc pour l'instant on va s'en tenir à ça, d'essayer de mettre ces genres-là en lumière et de les faire apprécier par le plus grand nombre. Je ne sais pas si c'est trop ambitieux de le dire, mais dans tous les cas, voilà, c'est un peu l'idée.
Sachant que donc FLEE aujourd'hui, c'est et à la fois un label et à la fois une revue, et comme tu le dis, cette plateforme d'ingénierie culturelle.
Exactement, donc c'est vrai que du coup on sort un vinyle avec des morceaux qui sont licenciés, donc une activité de label, aussi une activité on édite aussi des magazines, et également cette plateforme. Donc c'est vrai que nous, on a aussi vocation à organiser des conférences sur des thématiques qu'on trouve extrêmement intéressantes, sur la définition de la world music typiquement aujourd'hui. Il y a pas mal d'approches qui peuvent même être parfois conflictuelles à ce niveau-là, donc c'est intéressant. Je pense que c'est des thématiques qui méritent d'être approchées, notamment au niveau de tout ce qui concerne l'appropriation culturelle. C'est vrai que même nous, on a dû quand même se confronter aux limites que notre démarche posait, tout simplement, sachant que voilà, on va pas se mentir, on est trois Européens, là en l'occurrence c'est vrai qu'on va au Kenya, quelle est notre légitimité là-dedans ? Donc c'était très intéressant de se questionner aussi à ce niveau-là, d'essayer de réaliser ce projet de la meilleure des manières, entre guillemets, donc en sollicitant vraiment au maximum, je pense, des acteurs locaux. Et donc là, on va retourner au Kenya pour essayer vraiment de redonner aussi ce projet, et ça va être la démarche à chaque fois, hein, sachant que FLEE n'a pas vocation à s'intéresser qu'à des musiques typiquement africaines, je sais qu'on a eu beaucoup la question, mais à chaque fois d'essayer de redonner, entre guillemets, ce projet au premier concerné, en fait, tout simplement, et puis voir quel en sera l'accueil, mais avec un peu de chance. Et je pense que pour l'instant tous les retours ont été bons à ce niveau-là, qu'il est intéressant pour notamment certaines personnes qui peuvent peut-être être nostalgiques de voir ces genres musicaux tomber pas forcément dans l'oubli, mais un peu être un petit peu mis de côté, de voir qu'il y a aussi un regard extérieur qui veut se pencher peut-être un peu, pas sérieusement, enfin si sérieusement, mais aussi de manière un peu approfondie sur ces mouvements, essayer d'en décrire vraiment le contexte, parce que pour nous, c'est vrai que ça fait partie intégrante d'un mouvement musical, tout le contexte sociologique, politique et même économique qui peut sous-tendre un genre, pour nous, il est essentiel à sa compréhension. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une logique beaucoup plus, j'ai l'impression, de collection, entre guillemets, à ce niveau-là, où c'est vrai que le tropicalisme, fait vendre, c'est vrai, c'est une certitude. Est-ce que c'est suffisant de s'arrêter à ça ? Nous, on estime que non, et c'est pour ça qu'on a créé FLEE.
FLEE a été initié par trois jeunes passionnés de musique basés en France, en Allemagne et dans le Golfe. Olivier Duport est un des trois fondateurs. Il répond aux questions de Vladimir Cagnolari.
À l'origine, il est né de quelle envie, ce projet FLEE ?
Il est né de ce constat, en fait, je pense, essentiellement. Donc c'est vrai qu'on a dressé ce constat d'une globalisation des musiques donc à l'échelle mondiale, qui à mon avis qui existe, hein, c'est indéniable, notamment avec l'avènement du digital aussi au niveau de la musique. Ça rend les échanges beaucoup plus faciles, ce qui est une bonne chose en soi. Simplement, on a aussi considéré qu'il était peut-être un peu dommage que cette globalisation se fasse sans forcément prendre en compte toutes les spécificités de ces genres musicaux qui faisaient justement leur richesse. Et c'est vrai que du coup, on est les premiers concernés. On se disait, oh, ok, bah, c'est super d'écouter ce genre musical d'Afrique du Sud, mais au final, on n'en savait pas beaucoup plus. Et donc après, ça, il revenait à tout un chacun de faire ce travail de recherche en fait par soi-même. Et on se disait que c'était quand même vraiment dommage que beaucoup de gens n'aient pas forcément les clés en main pour comprendre vraiment ce qu'ils écoutent. Et on s'est dit, bah, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas quelque chose à ce niveau-là qui comble cet écart, entre guillemets. Je pense sincèrement que, typiquement, là, sur ce premier numéro, on y répond de manière assez efficace, dans le sens où ça ne se vaut pas être une encyclopédie du Benga, en l'occurrence, mais vraiment un projet qui donne des clés de compréhension et qui permet, après, aux gens qui seraient potentiellement vraiment extrêmement intéressés par la chose, d'aller plus loin. Mais je pense qu'il suffit aussi à soi-même, si on veut aussi simplement en savoir un peu plus, quoi.
Il y a deux écueils que vous vouliez éviter. Tu parlais justement du fait que les musiques circulent beaucoup plus facilement aujourd'hui. Et il y a effectivement un engouement, en tout cas en Occident, pour beaucoup de musiques, et en particulier africaine, puisque là on parle de l'Afrique, mais pas que, qui est un peu une sorte d'exotisme aussi, ce que tu as appelé le tropicalisme. Et je crois que vous vouliez absolument éviter ça, justement, et d'un autre côté, vous vouliez pas non plus faire de l'ethnomusicologie, ou quelque chose où les chercheurs parlent aux chercheurs, et on dissèque peut-être un petit peu trop ces musiques-là. Explique-nous un petit peu ça, parce que ça fait partie de la philosophie de votre projet.
Bien sûr, c'est vrai que c'est une ligne assez fine, entre guillemets, qui consiste à situer un peu entre les deux. Donc d'une part, en effet, éviter cet excès d'exotisme, de tropicalisme. Il y a pas mal de clichés aujourd'hui, hein, à ce niveau-là, et bon, malheureusement, je pense que ça va continuer encore un petit peu. Et puis après, d'avoir une approche trop académique. Alors c'est vrai qu'en plus, nous, c'est aussi peut-être un peu notre passif, donc c'est vrai qu'on a essayé de se mettre des freins à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça aussi intéressant de multiplier aussi les partenaires avec qui on a travaillé, d'avoir déjà, bien évidemment, l'apport d'acteurs locaux, donc que ce soit des artistes, des journalistes, des producteurs à ce moment-là, qui nous ont vraiment aidés à nous situer dans le... j'ai envie de dire dans le vrai, dans le sens où ils ont également vécu les pratiques qui étaient à l'œuvre à ce moment-là, etc. Donc c'est pas vraiment simplement appuyé sur du travail de recherche, on n'a pas simplement contacté aussi des académiciens pour reproduire un travail de dissection, ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Et puis surtout, je pense que c'est aussi par l'apport des édits, en fait, des morceaux qu'on a laissé retravailler par des artistes un peu plus contemporains, qu'on a évité cet écueil, dans le sens où on a aussi montré que si, bien sûr, ce genre musical qu'est le benga en l'occurrence s'inscrivait dans un cadre historique, à savoir les années 70 en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il est un peu oublié, il n'avait pas vocation à y rester ou à être inscrit dans l'histoire pour y demeurer figé, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce travail-là, on a essayé de montrer qu'il y avait encore énormément de potentiel dans cette musique pour qu'elle soit aussi, j'ai pas envie de dire utilisée, mais réinterprétée aujourd'hui et puis aussi écoutée encore un peu plus.
Pourquoi vous avez choisi Flea alors qu'on est à l'époque justement d'Internet, même s'il y a un site qui présente ce projet, pourquoi vous avez choisi de le sortir en beau papier et avec un vinyle en plus tiré en très petit nombre, je crois que c'est 200 exemplaires, pourquoi vous avez fait ce choix-là ?
Pour plusieurs raisons. La première étant vraiment qu'on voulait aussi avoir la possibilité de valoriser au maximum des travaux graphiques. Donc là, on a quand même les contributions d'une illustratrice, d'un atelier de conception graphique et également l'apport des photos d'archives qu'on a pu mobiliser. On avait vraiment à cœur de mettre ça bien en forme et je pense que le projet fait assez honneur à cette démarche à ce niveau-là. C'est vrai que bien évidemment, ça réduit peut-être un peu l'impact du projet dans un premier temps, dans le sens où c'est vrai qu'il faut un lecteur vinyle, qu'il faut prendre le temps d'ouvrir le magazine, de le lire, mais ça nous semblait aussi assez cohérent avec la démarche qui est la nôtre, dans le sens où on considère vraiment qu'il faut prendre un peu de temps aujourd'hui, surtout à l'heure de la digitalisation à outrance, j'ai l'impression que les gens consomment de la musique beaucoup plus par flux aujourd'hui. La preuve, peu de personnes possèdent encore leur musique aujourd'hui. La majorité des gens commencent maintenant à utiliser des services de streaming, etc. Et c'est vrai que ça nous paraissait presque un peu incompatible avec la démarche qui était la nôtre, à savoir donner vraiment un peu de contexte, avec notamment des écrits, avec des textes qui peuvent être un peu longs, c'est vrai. Et bon, voilà. Après, du coup, pour pallier ce phénomène, on a aussi décidé de faire une sortie digitale, hein, donc sur laquelle on peut aussi retrouver une version notamment numérisée du magazine, pour aussi bien évidemment toucher des personnes qui n'auraient pas forcément déjà la possibilité d'écouter le vinyle par exemple.
Puis ça coûte plus cher.
Et ça coûte plus cher, bien évidemment, c'est vrai. Alors après, je pense quand même que d'avoir cette... Cette versatilité nous a beaucoup aidé à valoriser aussi le projet, dans le sens où c'est une musique qui est très riche, et il nous paraissait aussi important de lui rendre justice à ce niveau-là, d'avoir aussi visuellement quelque chose de riche, tout simplement. Et oui, ça explique bien ce choix, je pense.
I can tell you a story. There's another hit which Kolela released. And Kaikai Klonzo of Kilimambogo copied the same and played the same rhythm Kolela used to play. And it was sold in Cumberland like even all Luos bought that music by Kaikai Klonzo. In 1970s, 1980s, there was no boundaries. This is Luo music, this is Kikuyu music, this is Lohia or Benga music. And I think we have the song here. Maybe you will listen to it. This is Benga music.
RFI. Vous écoutez l'Atelier des médias, vous êtes sur RFI. Cette semaine, nous consacrons la première partie de l'émission au projet FLI, lancé par trois entrepreneurs culturels. Il vise à faire redécouvrir des styles de musique méconnus et délaissés en utilisant au moins trois supports, le vinyle, le papier et le web, ainsi que des rencontres et des événements autour de la musique choisie. Le premier numéro de FLI, sorti en octobre, est consacré au Benga, une musique kenyane née dans les années 60 et tombée en désuétude au milieu des années 80. Un sort qu'Olivier Duport souhaite conjurer. Il répond à Vladimir Cagnolari.
Qu'est-ce que le Benga raconte du Kenya de ces années 70-80 en particulier ?
Il raconte une certaine liesse, c'est un certain bonheur, donc de par les textes, les thématiques abordées dans les chansons, donc beaucoup de thèmes assez universels comme l'amour typiquement, il y a le classique à ce niveau-là on va dire, mais également aussi des conflits sociaux, des colères aussi. Et du coup, c'est vrai que de par cette multitude de thématiques abordées, le Benga nous paraissait vraiment être une vraie mosaïque du Kenya, et notamment durant ces années. Et après, le Benga étant aussi un genre qui s'est adressé à toutes les ethnies, c'est vrai que ça en faisait un élément assez fédérateur et universel, au moins au niveau du Kenya. Donc c'est pour ça que c'était extrêmement intéressant de se pencher là-dessus, de voir les différences qu'il pouvait y avoir à l'intérieur même du mouvement, les vieilles écoles, les nouvelles écoles par ethnie, comme je le disais. Et voilà, donc après aussi, bien évidemment, le fait que le Benga ait été aussi utilisé pour contester des politiques, c'était aussi une époque assez dure, hein, politiquement, assez autoritaire. Et le Benga a notamment été pas mal... contrôlé à un moment donné ou même mis en sourdine. Donc c'était très intéressant de se pencher là-dessus et de voir à quel point c'était le reflet, je pense, de la société kenyane. Enfin, je pense qu'il n'est pas absurde de dire que c'était vraiment à ce moment-là la musique kenyane, simplement.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte aussi l'époque optimiste post-indépendance, malgré les difficultés qui pointent politiquement au Kenya, mais aussi ce grand mouvement d'exode rural où la ville finalement est envahie par des musiques de brousse.
Bien sûr, c'est vrai que du coup le Benga a cette dimension très marquée, une musique campagnarde, une musique rurale, et c'est vrai que c'est, je pense aussi, ce qui a dû faire défaut au genre. Musique qui a donc été jouée essentiellement par des personnes habitant en province, cultivant la terre, notamment sur leur chamba, c'est les exploitations personnelle que la plupart de ces musiciens avaient, et qui du coup venaient, donc c'est vrai que ça s'est couplé à ce phénomène d'exode rural à ce moment-là, qui venaient notamment à Nairobi pour tenter leur chance à ce niveau-là, mais qui ne possédaient ni les instruments, ni les droits des morceaux qu'ils enregistraient. Donc c'était une situation très précaire. Alors, il ne faut pas non plus prendre cet exemple, ça a existé en Amérique, en Europe aussi.
En Jamaïque aussi.
De partout. De toute manière, malheureusement, c'est vrai que c'est assez global comme phénomène. Simplement, voilà, c'est vrai que d'ailleurs, en parlant avec Douglas Patterson, on a pu mesurer un peu l'ampleur du phénomène. Et c'est vrai que bon, la plupart de ces musiciens n'étant pas forcément lettrés non plus, il y avait beaucoup d'abus. Hein, c'est vrai que voilà. Mais en effet, il y a cette artère majeure à Nairobi qui s'appelle River Road, sur laquelle la majorité des studios en fait étaient situés, et qui était vraiment une espèce de creuset d'influence, et qui était vraiment l'endroit, le nouveau berceau du Benga, et où en gros toutes ces personnes se rendaient pour enregistrer ces morceaux et qui repartaient dans leur terre par souci de pouvoir vivre correctement en ville.
Tu le disais, c'est une musique qui vient des campagnes, et les élites kenyanes, plutôt formées à l'école britannique, on se rappelle encore de voir ces images dans les années 60, je pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais où les juges kenyans portaient des perruques blanches à la britannique, je ne sais pas si ça a perduré, mais en tout cas, voilà, donc qui vivaient quand même dans un monde dont les repères culturels étaient plutôt à l'extérieur, du coup méprisaient en fait cette musique-là.
Et malheureusement, je pense que c'est encore toujours un peu le cas. Donc c'est vrai qu'on en parlant aussi avec beaucoup de Kenyans sur place, on s'est aussi rendu compte que le Benga souffrait donc déjà d'une de cette identité un peu campagnarde, opposé aux gens de la ville qui forcément y voyaient quelque chose d'un peu moins, peut-être, bon, à tort hein, à mon avis, raffiné typiquement. Et également, voilà, quelque chose d'un peu suranné, un peu vieillot. Et donc les élites, notamment à Nairobi, n'ont jamais fait ce travail de promotion de cette culture, l'opposant par défaut, en effet, comme tu le disais, peut-être encore au cadre colonial, ce qui est assez paradoxal, dans le sens où on est à ce moment-là en pleine période post-colonial, où il y a énormément d'espoir fondé dans justement cette émancipation. Et du coup, c'est très intéressant de voir que dans le magazine, une artiste comme Andy Madete a été à ces écoles, a appris le clavecin plutôt que le nyatiti à l'école.
La harpe traditionnelle,
c'est vrai. Et qui du coup a plutôt été à cette école et qui a découvert le benga un peu sur le tard. C'est vrai que c'est peut-être presque un rendez-vous manqué à ce moment-là. Avec l'héritage kényan, tout simplement, parce que, en effet, c'est vrai que l'héritage culturel colonial était peut-être encore un peu trop important à ce moment-là.
Et vous allez là prochainement au Kenya pour finalement présenter là-bas le premier numéro de Flea.
Exactement, ça a toujours été le but quelque part, hein, bien sûr, de pas simplement pratiquer un simple import musical entre guillemets, ce qui serait un peu dommage, spécialement quand on effectue cette démarche, je pense. Du coup, voilà, très très excité d'aller au Kenya pour présenter le produit fini cette fois-ci. Donc, on est en train de mettre sur pied d'ailleurs une soirée avec des événements divers pour représenter les fruits de ce travail. Au Kenya, donc comme je disais précédemment, il y a aussi des initiatives autour du Benga qui sont en train d'être mises sur pied. Je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine prise de conscience qui s'effectue sur le risque de voir un peu ce riche patrimoine culturel être oublié. Et du coup, bon, si nous on peut aider quelque part sans aucune prétention à contribuer à ça, ça serait super, et c'est ce qu'on va essayer de faire là en allant au Kenya. Ça va aussi être l'occasion de recroiser des partenaires et des gens qui ont travaillé avec nous sur ce projet, de pouvoir leur présenter fini et d'avoir bien sûr leur avis sur la question, ce serait très important pour nous.
Flea, la revue bilingue des musiques oubliées, c'était une découverte et un partage de Vladimir Cagnolari, réalisation Simon Decreuse. Pour plus d'informations, c'est bien sûr sur rfi.fr et fleaproject.com. Fleet.com. Courte pause dans l'atelier, restez avec nous. La deuxième partie de l'émission est consacrée au jeu du réel Enterre-moi mon amour, la dernière création de Florent Morin, le spécialiste français des jeux à vocation informative et narrative. Florent est notre invité. Atelier des médias, merci de nous rejoindre. Avant de retrouver notre deuxième invité du jour, petit détour par deux événements qui nous ont marqués cette semaine. Il y a quelques mois, nous avons consacré une émission au destin de Louise Pikowski, jeune lycéenne française, juive, déportée en 1944 et morte à Auschwitz. Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, et Khalida Hatchi, documentaliste au lycée La Fontaine à Paris, ont mené un travail d'enquête sur Louise après avoir redécouvert de très belles lettres qu'elle avait écrites à sa professeure de lettres, Mademoiselle Malingret.
Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à Mademoiselle Arnold et je vous embrasse. Louise.
Si vous aviez pu entendre ce reportage, vous vous souvenez peut-être qu'au moment de sa diffusion, le lycée Jean de La Fontaine à Paris, où Louise était scolarisée, ne disposait pas d'inscription à la mémoire de ses élèves déportés. Ce mercredi, une plaque a été inaugurée en présence de plusieurs élus et personnalités, dont André Panxer, président du Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés.
Si je suis en mesure de vous parler aujourd'hui, c'est grâce à ces braves gens de toutes conditions, de tous horizons, connus ou anonymes, qui se sont désolidarisés de l'atmosphère de collaboration, d'indifférence ou de haine qui avait cours lors de la Shoah et qui, au risque de leur vie, nous ont aidés. Ils nous ont cachés et ainsi sauvés de la solution finale. Aujourd'hui, de nombreux enfants fuient la guerre et la mort au Moyen-Orient et en Birmanie. À notre tour, nous devons accueillir les enfants réfugiés en France dans de bonnes conditions, que leur soient offerts des moyens d'une enfance normale, l'accès à l'école républicaine et une vie dans des foyers chaleureux. Soyons des justes. À partir de demain, chers élèves, avant d'entrer dans vos classes, vous passerez devant cette plaque. Ayez alors une pensée pour ces jeunes filles qui étaient des élèves comme vous, et qui aurait pu être en 2017 des grands-mères, comme je suis grand-père aujourd'hui.
Si vous souhaitez réentendre l'émission « Si je reviens un jour » consacrée à l'enquête de Stéphanie Trouillard, Khalida Hatchi ainsi que des élèves et des professeurs du lycée La Fontaine, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de notre émission. Vous trouverez ce sujet dans nos archives. Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 novembre, non loin de la frontière franco-italienne côté français, les journalistes Caroline Christina et Raphaël Kraft ont été interpellés par la gendarmerie alors qu'ils suivaient des personnes ayant porté secours à des mineurs non accompagnés entrés en France. Reporters sans frontières s'est ému de la convocation des deux professionnels le lendemain à la gendarmerie de Briançon et de la mise en cause de Caroline Christina pour, je cite, « aide à l'entrée, la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire français ». Raphaël Kraft, collaborateur régulier de cette émission, a quant à lui été entendu comme témoin. Il était sur place pour France Culture. Hier, vendredi, il a diffusé son enquête. Je vous propose d'en entendre un extrait. Il s'agit de l'entretien qu'il enregistre le lendemain de leur interpellation avec un des quatre mineurs. La scène se passe en Italie.
Lanzana Diallo, qu'est-ce qui s'est passé quand la police a arrêté les deux voitures ?
Ils nous ont demandé la date de naissance.
C'est quoi votre date de naissance, vous ?
Moi, ma date de naissance, c'est le 10 octobre 2001. Okay. Je leur ai donné ça, ils m'ont demandé le nom de ma maman et mon père aussi. J'ai donné ça, la nationalité et quelle ville je suis né. Après ça, ils sont venus, c'est dans le minibus là, ils nous ont envoyés à la frontière d'Italie.
Alors, est-ce qu'ils vous ont laissé à la gare de Bardonecchia ou est-ce qu'ils vous ont laissé dans la montagne ?
Non, ils nous ont laissé dans la montagne. Et puis, avec fraîcheur de 2 degrés encore, ils nous ont laissés dans la montagne, ils nous ont montré la route, ils ont dit oui, voici la direction de l'Italie.
Quelle heure était-il lorsqu'ils vous ont reconduit ?
C'est à 1h qu'ils ont reconduit.
1h du matin ?
Oui, 1h du matin. On est resté dehors là-bas jusqu'au matin.
Est-ce qu'ils vous ont donné à manger ?
Non, ils ne nous ont rien donné.
Est-ce qu'ils vous ont donné de l'eau ?
Non. Et leur objectif, c'était de nous reconduire à la frontière.
Le reportage de Raphaël Kraft montre donc que des gendarmes français ont reconduit à la frontière italienne en pleine nuit, par des températures glaciales, quatre jeunes qui disaient être mineurs. Ce que les sons ne montrent pas, c'est que les quatre migrants ont effectivement une apparence juvénile qui aurait dû inciter les autorités françaises à les prendre en charge et les protéger. Le reportage de Raphaël Kraft est à retrouver sur le site de France Culture et sur le podcast du magazine de la rédaction de France Culture. Vous écoutez l'Atelier des médias. Nous explorons aujourd'hui, comme chaque semaine, des projets, des histoires, des aventures liées à l'univers des médias et à la manière dont on peut raconter la complexité de notre monde.
L'Atelier des médias.
Alors, moi, je m'appelle Florent Morin. Je suis de formation journaliste. J'ai travaillé 10 ans chez Bayard Presse. Mais je suis aussi joueur depuis que j'ai 10 ans à peu près. Et ça fait longtemps que je réfléchis à comment est-ce qu'on peut essayer de faire des jeux qui racontent des choses sur le monde réel. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est ce que je fais dans ma boîte qui s'appelle The Pixel Hunt.
Nous sommes ravis de vous faire entendre aujourd'hui la voix de Florent Morin dans l'Atelier des médias. Il y a bientôt 5 ans, ce jeune journaliste a décidé de créer une entreprise pour explorer les interactions entre ses deux passions, le journalisme et le jeu vidéo.
Le jeu vidéo, dans l'absolu, ça s'est structuré autour d'un objectif principal qui était le divertissement. Beaucoup, dès les années 70, dès les tout premiers jeux vidéo, et puis encore plus dans les années 80, qui sont le premier âge d'or des jeux vidéo, le marché s'est développé comme étant un produit de divertissement. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est très bien, ça me va bien. Et c'était pareil pour la bande dessinée ou le cinéma. Sauf qu'à un moment, les joueurs qui jouent depuis un certain temps s'intéressent à ce truc comme un objet culturel et se disent « Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen, dans les jeux vidéo, d'avoir une autre ambition que le simple divertissement ? Est-ce qu'on ne peut pas parler du monde qui nous entoure ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une réflexion sur d'autres vies que la nôtre ? Est-ce qu'on ne peut pas même interroger le joueur sur sa position de joueur ?» Aujourd'hui, il y a des jeux comme This War of Mine, qui est un jeu dans lequel on apprend ce que c'est qu'être un civil en temps de guerre, par exemple. Il y a des jeux comme Gone Home, qui est un jeu dans lequel on explore une maison à la recherche de sa sœur qui a disparu, et on se rend compte qu'elle a disparu parce qu'elle a un grand secret qu'elle n'ose pas révéler à ses parents. Il y a des jeux comme Firewatch, qui sont... sous couvert d'être un jeu où t'es dans un parc naturel et t'es censé vérifier qu'il n'y a pas d'incendie, en fait, c'est des jeux sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être médiocre. Et donc, c'est une réflexion sur comment est-ce que tu peux affronter ta propre médiocrité en tant qu'être humain. Et ces choses-là, ces considérations un peu philosophiques, un peu d'actualité au sens très large, un peu « je suis certes un joueur, mais je suis aussi un être humain au cœur du monde », c'est des choses qui se connectent à nous en tant que joueurs, comme elle se connecte à nous en tant que spectateur de cinéma quand on va voir un documentaire, ou en tant que lecteur quand on lit un roman qui raconte une histoire qui est vraiment arrivée, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est directement lié à ma formation de journaliste, et aussi au fait que j'ai 37 ans maintenant, et que sauver des princesses et tuer des trolls, c'est cool, et j'aime toujours bien ça, tu vois, mais à un moment, t'as envie... pour la forme d'expression qui est celle que tu plébiscites, t'as envie d'essayer de l'emmener un petit peu dans d'autres territoires.
La quête de Florent s'inscrit bien sûr dans un mouvement plus large. Dans les pays anglo-saxons, on parle de news game pour décrire les expériences souvent heureuses qui mêlent interface ludique et information. Le New York Times, le Guardian, le Financial Times, la BBC, tous les grands médias anglophones proposent ce type de jeu en ligne. Un de mes préférés, découvert d'ailleurs grâce au blog de Florent, est tout simple. Il teste votre capacité à ne pas commettre de faux départs lors d'une course de vitesse. Vous cliquez, une voix vous dit à vos marques, prêt, puis un coup de feu et vous devez cliquer sur un bouton. Le chronomètre vous indique un temps qui vous fait réaliser que toute la course se joue à ce moment-là. Ce jeu s'appelle Can You Beat Usain Bolt et il a été créé et partagé par le New York Times. Du côté français, il existe également de nombreuses créations de jeux à vocation informative.
J'utilise une expression qui s'appelle « jeu du réel », et pas « jeu informatif », parce que j'estime avoir une position qui est presque plus proche de celle d'un documentariste engagé, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, et même en l'occurrence une fiction. Donc on n'est pas dans l'information pure, brute, et les faits, etc. Il y a des jeux, lemonde.fr fait régulièrement des jeux informatifs basés par exemple sur les chiffres du budget, choisis toi-même tes coupes budgétaires pour voir si tu arrives à rééquilibrer le budget de la France, et ça c'est cool. Après, je pense qu'il ne faut pas prêter aux jeux vidéo plus de poids ou de pouvoir qu'il n'en a en réalité. Ce n'est pas le futur de l'information, ce n'est pas la manière incroyablement efficace de faire s'intéresser les jeunes. C'est un truc que j'ai souvent lu, ça. Genre, les jeunes ne lisent pas la presse, ne lisent plus la presse. Ah bah, on va faire des jeux, parce que comme ils aiment bien les jeux, donc on va réussir à rentrer par la fenêtre parce qu'on s'est fait jeter par la porte. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, ce à quoi je crois, c'est que il y a des expériences que tu peux faire vivre sous la forme de jeux que tu peux pas faire vivre autrement. Le fait de recevoir une notification à 2h du matin de quelqu'un qui est dans l'angoisse, eh ben, tu pourras pas le faire en article. Tu pourras écrire « Elle a essayé de contacter son mari à 2h du matin ». Ça n'aura rien à voir avec le fait d'avoir ton téléphone qui vibre et de recevoir une notification. Il y a des modalités qui tiennent même à la nature de l'objet interactif qu'est le jeu, qui sont différentes. Et donc, pour moi, le jeu vidéo, c'est un outil dans une boîte à outils, comme le texte en est un, comme la vidéo en est un, comme le son en est un. Et parfois, pour raconter certaines histoires, le jeu vidéo va permettre des choses qui seront hyper intéressantes en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Et donc, il faudra essayer de faire un jeu vidéo. D'autres fois, ce sera pas du tout utile et ce sera pas du tout agréable, sans aucune valeur ajoutée. Dans ce cas-là, il faut pas essayer de faire tout rentrer au chausse-pied. Mais à certains moments, notamment pour faire comprendre les relations entre les causes et les conséquences, le fait d'avoir des choix avec des conséquences que tu dois ensuite affronter, etc., le jeu vidéo est beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre forme d'expression médiatique. Il ne s'agit pas non plus de le décliner à toutes les sources pour autant. Si je te fais un jeu sur la communication de crise, ce qu'on a fait il y a quelques années avec The Pixel Hunt et d'autres entreprises avec qui on a fait ce jeu qui s'appelle Jeu d'Influence, on va imaginer un gameplay dans lequel il faut être un client d'un conseiller en communication et qu'est-ce que tu vas lui demander pour essayer de minimiser les effets d'une crise médiatique à laquelle tu es confronté. Et en fonction de ce que tu vas décider, tu vas avoir des conséquences positives, négatives. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que moralement c'était acceptable? Est-ce qu'il y a des choses à redire, etc. Et ce qui est cool avec les jeux, c'est que c'est pas dangereux, un jeu. Tu peux rater, tu peux te tromper, tu peux vivre des expériences qui vont être déstabilisantes, qui vont être inhabituelles pour toi. Ça va te secouer un petit peu, mais quand tu vas revenir, entre guillemets, dans le monde réel, même si j'aime pas trop ce cloisonnement entre monde du jeu et monde réel, bah tu vas pas avoir souffert, tu vas pas avoir à subir les conséquences de tes choix. Tu vas pouvoir apprendre, entre guillemets, gratuitement, dans un espace un petit peu protégé. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre le mieux, c'est quand on risque pas de se faire taper sur les doigts. Je parle souvent du système scolaire comme ce serait bien s'il fonctionnait un peu plus comme un jeu, et qu'au lieu de te mettre un 0 sur 10, on dédramatise le fait que tu te trompes pour insister sur pourquoi est-ce que tu t'es trompé, que tu le comprennes et que tu te trompes plus la fois suivante. Ça, c'est ce que les jeux permettent. Et c'est super qu'ils le permettent dans un objectif de divertissement, être en mesure d'être de plus en plus en maîtrise de l'univers pour avoir de plus en plus de plaisir à bien sauter, à bien éviter les précipices, etc. Et ça, même chimiquement, ça se passe dans ton cerveau, tu génères un petit peu des endorphines parce que tu réussis à relever le défi. Mais ça peut aussi aller un peu plus loin et te montrer des situations qui sont pas la tienne, qui sont inconfortables, comme celle de réfugiés qui essaient de partir de Syrie et d'arriver en Europe, et te faire réfléchir sur quels sont les choix qu'ils ont à faire, quels sont les meilleurs choix dans cette situation spécifique, qui ne te concernent pas directement, heureusement pour toi, parce que t'es pas en train de la vivre vraiment. Ça veut pas dire pour autant que tu peux pas avoir de l'empathie, et tu peux pas avoir, en tant qu'être humain, l'envie et l'intérêt de comprendre la situation et de comprendre les choix qui sont faits. Ça, c'est notre pari, en fait, que ça peut intéresser des gens. Après, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? On le saura dans quelques semaines.
On va parler donc du jeu, entre guillemets, qui nous réunit, qui s'appelle Enterre-moi. Mais avant ça, quand on part d'un amour du jeu, d'un intérêt pour le journalisme ou d'une formation de journaliste, c'est qu'on veut transformer des jeux en des jeux informatifs ou éducatifs. Qu'est-ce que c'est les difficultés quand on part de cette intention? Qu'est-ce que c'est les questions? Comment est-ce qu'on fait pour faire qu'un jeu fonctionne et soit en même temps informatif?
La difficulté principale, je pense qu'elle tient à l'imaginaire des gens et à ce que les gens mettent dans le terme « jeu ». Toi-même, t'as dit « un jeu entre guillemets ». Et moi, je pense pas que c'est un jeu entre guillemets, je pense que c'est un jeu, un véritable jeu. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais le constat, c'est que depuis des années et des années, on a naturellement associé le jeu avec la trivialité, avec une activité un peu futile, gratuite. Est-ce qu'elle est c'est naturellement quelque chose qu'on associe avec l'enfance. Sauf que dans l'enfance, c'est un processus d'apprentissage. Et que moi, je trouve ça dommage qu'on arrête d'apprendre quand on grandit. Et que donc, on écarte le jeu comme étant plus pertinent parce qu'on est grand et que censément, on a tout appris. Ben non, on apprend au fil de sa vie. Et donc, c'est important de continuer à être curieux et à avoir envie d'apprendre. Partant de ça, le premier problème qu'on peut avoir, c'est de réussir à convaincre les gens que oui, on peut faire des jeux sur n'importe quel sujet. Oui, on peut faire des jeux sur des sujets hyper graves et compliqués, comme la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui est un jeu qui a gagné le concours de IndieCade de la semaine dernière à Los Angeles, parle de cette thématique-là, qui est très lourde aussi, sur les réfugiés syriens et sur plein d'autres choses. Parce que on se détache de la nature forcément triviale du jeu et on se dit non, un jeu, c'est un outil pour apprendre. Un jeu, c'est un outil pour apprendre. Un jeu, c'est un outil pour apprendre.
La société de Florent Morin, Pixel Hunt, a déjà participé à plus d'une vingtaine de jeux du réel, dont certains ont été évoqués dans cette émission comme Fort McMoney de David Dufresne. Leur dernière création est sortie il y a quelques jours sous forme d'application et de site web hébergé par Arte. Son nom, Enterre-moi, mon amour.
Alors, Enterre-moi, mon amour, c'est l'histoire d'un couple syrien, Nour et Majd, qui sont mariés, qui habitent à Homs, et un jour il y a une attaque, un bombardement, et la sœur de Nour meurt. Et c'était la dernière personne de sa famille à être encore vivante, donc Nour décide que ça peut plus durer et qu'elle se sent vraiment plus en sécurité et elle veut partir. Le problème c'est que Majd, lui, a sa mère et son grand-père qui sont encore vivants, donc lui il peut pas partir, et donc ils vont être séparés, et ils vont se tenir au courant l'un l'autre de ce qui leur arrive, par l'intermédiaire d'une application qui ressemble très fort à WhatsApp. Évidemment, c'est directement inspiré du fait qu'aujourd'hui, les migrants, pour leur grande majorité, ont un smartphone et utilisent ce type de messagerie pour justement rester en contact avec leurs proches. C'est encore plus directement inspiré de l'histoire de Dana, qui est une jeune Syrienne qui aujourd'hui habite en Allemagne, et qui en 2015 a fait ce fameux voyage et a tenu sa famille au courant comme ça, et a ensuite fourni les captures d'écran de ses conversations au journal Le Monde. Ça a donné un article qu'on a lu et qui nous a complètement remué, quoi. Parce qu'il y avait à la fois l'extrême familiarité de WhatsApp, de l'interface de WhatsApp, on est en territoire complètement connu, et en même temps, l'extrême distance et aussi l'extrême familiarité des codes. On utilise des émojis, on fait des blagues, etc. Enfin, une grande proximité entre Dana et l'usage que je peux avoir de WhatsApp quotidiennement. Et en même temps, elle parlait de questions de vie ou de mort. Et moi, quand je suis sur WhatsApp, j'envoie des photos de chats à ma mère. Tu vois, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc on s'est dit que c'était très intéressant de faire comprendre à un public plus large cette réalité des migrants. On a contacté Lucie Soulier, qui est la journaliste du Monde.fr qui avait écrit l'article. Puis, par l'intermédiaire de Lucie, on a contacté Dana. Et les deux, on leur a raconté ce qu'on voulait faire. Elles ont été assez rapidement emballées et elles ont accepté de nous aider. Et donc, elles sont consultantes sur le projet pour qu'on n'écrive pas de bêtises, en fait, tout bêtement.
Enterre-moi, mon amour est donc le nom du dernier jeu informatif co-signé Florent Morin. Ce jeu s'inspire d'un article du Monde titré « Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp ». Un article sous forme de capture d'écran de conversation en arabe sur WhatsApp accompagné de leur traduction en français. Cette expérience du Monde.fr mise en ligne en décembre 2015 était signée Lucie Soulier et Majid Zerouki. Elle a reçu plusieurs distinction pour sa qualité narrative et son efficacité journalistique. Il n'y avait pas de manière plus habile de raconter le rôle des messageries instantanées dans ces guerres du 21e siècle, ces espaces virtuels où les individus vivent les dangers, les bombardements, les risques, les morts, les peurs, les silences, en direct et sans filtre. L'article du Monde a inspiré Enterre-moi, mon amour, qui propose l'interface d'une application de messagerie pour suivre le périple de Nour, une jeune Syrienne.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit, par l'intermédiaire d'une interface connue, qui est le WhatsApp-like, ressemble à WhatsApp, Et avec l'énorme masse de documents qui existent aujourd'hui, parce que bah, dans des articles, des documentaires, plein de formes, et puis des gens même qu'on connaît nous, on peut recueillir plein de voyages différents entre la Syrie et l'Europe, on peut proposer une histoire à embranchement qui va raconter plein d'histoires en une et qui va essayer de donner à percevoir aux joueurs qu'est-ce que c'est que de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime de tout son cœur et qui est à quelques milliers de kilomètres et de qui on a des nouvelles uniquement par message texte, avec les moments d'attente, avec les moments d'inquiétude, avec les moments de rire aussi, les moments de blague, parce qu'on sait très bien que l'important, c'est aussi d'avoir un moral pas trop mauvais, donc on va essayer de faire penser à autre chose, de raconter des histoires, etc. Tout ça, on en a vu une partie dans l'article sur Dana, et on a essayé de le transformer en un jeu. Donc le joueur, lui, joue un peu à la place de Majd. Et c'est lui qui va donner à Nour des conseils, son avis, lui faire des blagues, essayer de l'aider le plus possible. Et c'est pas grand-chose, en fait, quand on est juste au bout d'un téléphone portable. Mais c'est déjà ça pour qu'elle réussisse à atteindre sa destination avec le moins de problèmes possible. Parfois, Nour va avoir des choses à faire. Elle va devoir trouver une solution pour passer un poste frontière. Elle va devoir trouver un endroit où dormir. Elle va devoir se mettre à la recherche d'un passeur. Dans ces moments-là, elle est occupée. Et donc, elle apparaît comme étant occupée, comme dans une application normale. Elle est hors ligne. Et donc, elle ne peut pas vous parler. Vous ne pouvez pas lui parler. Vous devez juste attendre d'avoir des nouvelles. Puis à un moment, vous avez votre téléphone qui va vibrer dans votre poche et vous aurez une notification qui vous dira qu'elle reprend la conversation avec vous, peut-être qu'elle a quelque chose à vous demander, peut-être qu'elle se sent un peu pas très bien, ou peut-être qu'elle a juste envie de vous parler parce qu'elle s'ennuie, aussi ça arrive, et il faudra être là pour elle. Il s'agit pas d'être là à la seconde près, on n'est pas dans une urgence, on a volontairement mis de côté le côté répond en moins de 30 secondes, sinon il va lui arriver quelque chose de malheureux. On veut pas mettre ce genre de responsabilité sur les épaules des joueurs, mais néanmoins, c'est une histoire au long cours, qui peut, si on joue en mode, ce qu'on appelle le mode temps réel, qui peut durer plusieurs semaines, enfin plusieurs semaines, non, plusieurs jours, peut-être même jusqu'à une dizaine de jours. Et on accompagne Nour jusqu'à ce qu'elle arrête d'être une migrante, c'est-à-dire jusqu'à ce que, parce qu'elle l'a décidé ou parce qu'elle y a été forcée, elle s'arrête quelque part. Il y a 19 fins possibles dans le jeu, et tout va dépendre de quels conseils vous lui aurez donné et qu'est-ce que vous aurez décidé ensemble pour continuer son chemin.
C'est ça que tu appelles une histoire à embranchement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, soit on assiste à une conversation qui se déroule devant nous et on envoie des messages qui sont tout prêts, soit on a des choix, choix entre deux ou trois possibilités, c'est ça ?
Oui.
Et en fonction des choix qu'on fait, eh bien, Nour va arriver à un autre endroit, puisque les choix peuvent être des conseils sur sa stratégie, sur le lieu par lequel elle va passer, etc. etc.
C'est ça, et bon, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, dans le sens où comme on n'est pas nous-mêmes sur le terrain, parfois elle va aussi vous demander votre avis et puis elle ne le suivra pas. Elle décidera autre chose parce qu'elle, elle a d'autres informations qu'elle vous a cachées, peut-être parce qu'elle ne veut pas vous inquiéter ou qu'elle a découvert entre-temps. Donc c'est aussi un jeu sur, à la différence de 99% des jeux vidéo, c'est un jeu sur le fait de ne pas avoir le contrôle. Quand on est dans cette situation-là, et ça c'est des choses qu'on a comprises en recueillant les témoignages, une des choses les pires, c'est de se dire en fait, je ne suis pas en contrôle, je ne peux pas aider autant que je voudrais la personne à qui je tiens, parce que bah, je ne suis pas avec elle déjà, et puis parce que je n'ai pas toutes les informations, puis parce qu'elle m'en cache, parce qu'elle ne veut pas m'inquiéter. Et donc, c'est aussi un jeu sur le fait que on ne peut pas toujours aider les personnes qu'on aime, même si c'est la chose qu'on veut le plus au monde. Et ça, c'est quelque chose bon, qui fait directement reflet à ce qu'on a recueilli comme témoignages et informations sur le sujet.
On peut pas toujours aider les personnes qu'on aime.
Je pense qu'il y a une chose qui est importante de préciser, c'est qu'on n'est pas une ONG. On n'a pas d'agenda. On n'est pas. Notre but, c'est pas de faire changer les comportements ou de laver le cerveau des gens pour les convaincre que tous les réfugiés sont les personnes les plus sympas du monde et qu'il faudrait les accueillir à bras ouverts, etc. On n'a pas d'agenda politique, quoi. Ce qui nous a touché, c'est l'histoire de Dana et toutes les autres histoires qu'on a lues. Et donc, ce qu'on veut, c'est raconter ces histoires. Mon ambition personnelle, c'est de remettre un petit peu en question l'idée qu'on peut avoir de ce que j'appelle les migrants, entre guillemets. Aujourd'hui, quand on regarde la télé ou quand on s'informe, pas forcément très en détail, on a assez rapidement, quand on est européen, l'impression que les migrants, c'est une espèce d'hydre à 10 000 têtes, une masse de gens indéfinie qui va venir envahir les pays européens, etc. On oublie, on occulte complètement le fait que dans cette masse de gens qu'on voit s'entasser aux frontières, essayer de les franchir, etc., en fait, on a une somme d'individus. Et chaque personne dans cette masse a des parents, peut-être des enfants, peut-être des oncles et tantes, peut-être des amis qui tiennent à eux, qui s'inquiètent pour eux, etc. C'est quelque chose qu'on oublie parce que dans la position d'un Européen, c'est aussi plus confortable. De se dire, c'est les migrants, ils sont loin de nous, ils sont culturellement, ils n'ont rien à voir avec nous, puis c'est une masse, ils sont tous pareils, ils n'arriveront jamais à s'intégrer, etc. C'est faux. C'est faux, et on en a des dizaines d'exemples quand on veut un petit peu s'y intéresser. Donc mon objectif à moi, je ne peux pas parler pour toute l'équipe qui travaille sur ce jeu, mon objectif à moi, c'est de rappeler cette espèce de réalité hyper simple, qui est de dire, les migrants, ça n'existe pas, il y a une somme de gens, d'individus, et chaque personne a son histoire. Et on vous raconte l'histoire d'un personnage de fiction. Nour, c'est un personnage, même s'il est inspiré de l'histoire de Dana, c'est un personnage de fiction. Mais ce personnage de fiction, c'est un vecteur pour essayer de souligner cette réalité que chaque personne qui décide de partir de son pays, la plupart du temps, ne le fait pas de gaieté de cœur. Ah bah tiens, si j'allais voir en Europe comment c'est, elle le fait parce qu'elle est forcée, et elle quitte un pays qu'elle aime, des gens qu'elle aime, etc., pour vivre des situations qui sont difficiles et dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement et sur lequel on avait envie de mettre un petit peu de la lumière.
« Enterre-moi, mon amour » est la traduction littérale d'une expression arabe « tobolni » qui signifie « en fait, tu me fais craquer » ou « tu me tues », une expression que les mères et les grands-mères disent souvent affectueusement à leurs enfants ou leurs petits-enfants. « Enterre-moi, mon amour » est un jeu du réel signé The Pixel Hunt, Figs et Arte France. Il est visible sur le site d'Arte et téléchargeable sur vos téléphones mobiles. L'Atelier des médias est une émission signée Léo Caravagna, Camille Deloche, Constance Léon, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Merci de votre écoute. Salut à toutes et à tous.